sera bienvenu dans cette émission. La situation sécuritaire continue de se détériorer à Ituri et dans les grands nord du nord Kivu. Dans les territoires de Mambasa, à Ituri, au moins 32 civils ont été tués et plusieurs autres enlevés au cours des 72 dernières heures lors des deux attaques attribuées aux rebelles des ZDF dans les localités de Niapanda, Bela et Lukaya. Selon les acteurs de la société civile, ces violences ont provoqué d'importants déplacements des populations, aussi bien dans les villages directement touchés que dans les localités voisines où la progression des assaillants alimente un climat de peur et d'incertitude. Par ailleurs, la société civile du Nord Kivu constate que cette province s'enfonce dans une crise sécuritaire majeure avec des massacres à répétition, enrôlements forcés et pillages systématiques. Dans une déclaration solennelle faite mardi 21 juillet à Mangina, dans les territoires de Beni, l'organisation dresse un constat accablant des exactions commises contre les civils et met en cause les rebelles des ZDF. Les provinces du Haut-Uele et de la Tchopo sont également affectées par l'activisme de ces groupes armés. Quelle lecture faire de la détérioration de la situation sécuritaire causée par les ZDF en Ituri et dans les grands nord du Nord Kivu? C'est l'objet du débat de ce soir et nous avons l'honneur, n'est-ce pas, de recevoir des députés nationaux ici dans notre studio. Le premier, c'est Abdallah Penembaka, il est député national élu du territoire de Mambasa. Il est ancien gouverneur de l'Ituri. Bonsoir, honorable Abdallah Penembaka.
Bonsoir, monsieur Guimanté.
Et le deuxième, c'est Karline Zanzou-Kativita, il est député national élu de Beni Territoire. Il est vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est également gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu. Bonsoir, honorable Karline Zanzou-Kativita.
Bonsoir, Guimanté. Bonsoir à mon collègue Abdallah.
Et en ligne, Ildefonse Boakyanakazi, il est chercheur à Ebouteli, il est spécialiste de la question EDF. Bonsoir, Ildefonse Boakyanakazi.
Bonsoir Guy, bonsoir le propos des acteurs et bonsoir les auditeurs de Radio Kati.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiokati.net.
Au moins 36 civils ont été tués et plusieurs autres personnes enlevées par les rebelles des ZDF depuis le 15 juillet dans les territoires de Mambasa, en Ituri et de Beni au Nord Kivu. Presque chaque jour, ces attaques sont signalées dans plusieurs villages, provoquant des déplacements des populations et la paralysie des activités socio-économiques. Les acteurs locaux de la société civile estiment que le gouvernement ne mesure toujours pas l'ampleur de la menace des ZDF et l'appellent à mobiliser davantage des moyens pour neutraliser ces groupes armés dont l'expansion se poursuit dans l'est du pays. Papier de Isaac Remoyope, rendu par Benjamin Moudoumbi.
L'attaque la plus meurtrière perpétrée par les ZDF au cours des deux dernières semaines est celle d'Njampanda Bela dans les territoires de Mambasa où 25 civils ont été tués. D'autres attaques ont également été enregistrées à Lukaya. 7 morts, toujours en territoire de Mambasa, ainsi qu'à Mangina dans les territoires de Beni au Nord Kivu où 3 personnes ont perdu la vie. Plusieurs civils ont également été enlevés, dont 9 motocyclistes à Mahou. Les assaillants ont incendié des maisons et des motos provoquant des déplacements massifs du population dans plusieurs localités, notamment à Mahou, Makoumo et Bamandé. Conséquence, les activités économiques et sociales sont fortement perturbées. Le commerce, les travaux champêtres et même la circulation des personnes et des biens sont au ralenti, voire suspendu dans certaines zones. Selon les organisations de la société civile, les ZDF ont déjà tué des centaines de personnes depuis les débuts de l'année dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. D'importants dégâts matériels ont également été enregistrés. Ces structures alertent en outre sur l'extension des activités de ces rebelles dans la province du Haut-Uele, notamment dans les territoires de Wata et de Wamba, où de nombreux habitants ont fui leur village et vivent dans des conditions précaires sur leur lieu de refuge sans assistance humanitaire. Face à cette insécurité persistante, les acteurs de la société civile dénoncent la faiblesse de la réponse du gouvernement qu'ils accusent de ne pas mobiliser suffisamment des troupes et des moyens logistiques pour traquer les ZDF. Ils dénoncent également la complicité présumée de certains habitants qui feraient partie du réseau de ces rebelles. Ils appellent ces derniers à mettre fin à ces pratiques, exhortent la population à collaborer étroitement avec les FRDC et demandent aux services de sécurité d'identifier les complices afin qu'ils soient traduits en justice.
Merci à vous, Benjamin Moudoumbi. Abdallah Penebakar, on va commencer avec vous. Vous êtes député national élu du territoire de Mambasa, ancien gouverneur de l'Ituri. Comment vous réagissez lorsque vous suivez ces reportages de nos collègues Isaac Iremoyope et Benjamin Moudoumbi?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette énième opportunité que vous venez de nous offrir.
Je vous en prie.
Acceptez que je commence par saluer mes co-débatteurs et saluer aussi toute la population de Mambasa, de l'Ituri, du Nord Kivu, toute cette population qui est en train de nous suivre à ce moment. Certains sont à la belle étoile, en train de passer la nuit sans aucune assistance du gouvernement de la République. Et l'impression qui se dégage, moi personnellement, je suis un homme parfois souvent frustré. Frustré lorsque je me dis, une fois j'ai eu mes maladies, c'est peut-être à cause de la distance. Ça se passe très loin de Kinshasa, loin des institutions, les ADF ne menacent pas le pouvoir de Kinshasa. C'est pourquoi on ne les sent pas. Tout celui qui menace le pouvoir peut-être de Kinshasa, on les sent et il reçoit une réponse, une réaction appropriée. Le gouvernement n'y met pas suffisamment de moyens. Et quand je dis de moyens, ici, l'autre fois j'ai évoqué ici, il se pose un problème de coordination. Vous allez constater, nous avons salué qu'il y ait cette mutualisation de forces avec l'UPDF. La mutualisation, au début, elle avait connu un peu de difficultés à Ituri avec l'ancien gouverneur militaire, mais depuis lors, les histoires semblent un peu évoluer un peu bien. Mais il se pose un problème de coordination. Vous allez constater, monsieur le journaliste, c'est toujours les terroristes qui prennent le premier pas. Ce sont eux qui commencent toujours.
C'est eux qui prennent l'initiative.
L'initiative. De notre côté, lorsqu'il y a
et une accalmie... Et ils opèrent en toute quiétude.
Oui. De notre côté, lorsqu'il y a accalmie, aucune initiative n'est prise. Alors que ces hors la loi devraient être traqués. Voilà. Et là, il se pose un problème. En dehors du manque de coordination, il se pose un problème d'effectif de cela. Parce que vous devez savoir, les terroristes, et il faut voir, il suffit de voir de Beni, en passant par Mambasa, jusqu'à Wamba et Watcha, vous voyez la distance. Ils savent opérer. Ils se sont dispersés en petits groupes pour opérer. Et pour réussir, il faut un effectif conséquent. Pour réussir, il faut de la logistique. Vous savez que les terroristes, ils ont des ramifications au niveau international, ils ont des ramifications, et à ce niveau-là, ils ont ce qu'on appelle le partage d'informations. À notre niveau, on devrait avoir aussi un pas d'avance par rapport au partage d'informations. Ils ont de la logistique. Ce qui s'est passé dernièrement à Pangoï, il a fallu, et ça je dois encore féliciter aussi les FARDC, ni c'était cette intervention, et si on n'avait pas réussi à détruire leurs drones, peut-être Pangoï serait encore un peu en difficulté. Ils utilisent des drones. Voilà. Et en dehors de ça, je parlais d'une certaine logistique.
Allez-y.
Je parlais de la logistique. Cette logistique, c'est aussi parfois le moyen de déplacement, le militaire. Voilà. Je crois qu'il suffit d'être dans la région de Mambasa, pour commencer Tetouri, jusqu'à Makiki. Vous voyez la distance qui sépare les deux entités. Vous allez comprendre.
Allez-y.
Vous allez comprendre que...
Apparemment, c'est un bruit qui vient d'un téléphone. Voilà, on va...
Voilà, vous allez comprendre que, avec une seule jeep que le régiment a, comment on peut être efficace? Voilà. Il y a des hommes, en quantité d'abord, j'étais en train de dire, en effectif insuffisant, mais ces hommes en effectif insuffisant, ils n'ont pas de la logistique nécessaire pour pouvoir intervenir. Voilà, il se pose un problème de moyens de déplacement, ainsi de suite. Moi je crois, c'est ici l'occasion de lancer un message, un appel au gouvernement de la République, que ça ne sert à rien que demain, qu'on pense continuer à gouverner sur les cadavres, qu'on pense continuer à régner sur des morts. C'est plus que jamais le moment de pouvoir amplifier, intensifier les actions contre ces terroristes, afin que cette population qui a tant souffert.
Oui, au mois d'avril, on se rappelle qu'au mois d'avril dernier, toujours dans cette même émission, vous avez dénoncé la tuerie des 100 civils par les EDF, toujours dans les territoires des Mambasa et Ituri. Aujourd'hui, trois mois après, vous revenez pour dénoncer encore des nouveaux massacres des civils par les mêmes EDF. Et pourquoi, à votre avis, la situation, au lieu de s'améliorer, et l'empire davantage. Vous avez dit que c'est par rapport à la distance, c'est parce que l'activisme des EDF apparemment ne menace pas directement les pouvoirs de Kinshasa, mais vous ne pensez pas que le fait qu'il y a cette extension territoriale, cela menacerait aussi les pouvoirs parce que ils avaient commencé dans une province, maintenant ils sont dans quatre provinces. Hein. Et quand on parle d'une province dans notre pays, c'est comme des pays, hein, des pays entiers. Alors là, ils sont dans quatre provinces. Vous ne pensez pas que cela menacerait aussi les pouvoirs de Kinshasa?
Oui, lorsqu'ils sont déjà à la Tchopo. La Tchopo, c'est Kisangani.
Voilà.
Et vous savez que beaucoup de rebelles qui, au principe, peut-être apprennent Kisangani, de Kisangani à Kinshasa, c'est de plus loin. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas trop sur le terrain? J'ai évoqué des problèmes. Oui. Notamment, il y a l'absence d'une bonne coordination. Il se pose un problème d'effectifs. Il se pose un problème de logistique.
Oui, vous avez rappelé tout ça.
Oui.
Justement, parce qu'ils sont en train de s'étendre. Ils sont arrivés dans Tchopo, qui est stratégique. À partir de Tchopo, on peut facilement atteindre Kinshasa. Oui. Justement, c'est à cause de ça que le gouvernement congolais devait prendre la mesure de la chose, n'est-ce pas?
En principe. Parce qu'en dehors de ça, vous avez parlé de Otwele, Ouacha. Vous savez que la République a des intérêts à protéger à Ouacha. Ces intérêts, s'ils arrivent à être touchés, ça peut affecter gravement la République. Il ne faut pas oublier que des sites miniers qui ont été à un moment abandonnés, pillés, abandonnés, les EDF se sont mis à exploiter. Pangoï n'est pas n'importe où dans le groupement Bakaïko. Et tous ces sites miniers-là, lorsque les EDF, ils envahissent, ils tuent, ils incendient, ils s'accaparent, ils exploitent de l'or. Mais en dehors de ça, monsieur le journaliste, il y a presque toute une république, cette zone de Elak et environ, allant jusqu'à Lolwa, Mungamba, ainsi de suite, cette zone est abandonnée. Il y a des concessions, d'hectares et d'hectares de cacao. Et ce sont les EDF qui font la loi. Il faut payer les taxes. Personne valide, si vous vous retrouvez dans ce coin-là, vous devez payer 30 000 le mois. Vous voyez ce que ça fait? Et depuis qu'ils sont là, ça fait plus d'une année. Ils ne sont pas inquiétés, ainsi de suite. Et chaque hectare, 50 dollars. Ils se font de l'argent. Et ce sont eux qui finissent par récolter. Vous vous posez parfois la question, d'où vient la contrebande de cacao? Ils participent à la contrebande de cacao. Voilà. Donc tout ça, réuni, ça devrait préoccuper Kinshasa.
Voilà. Est-ce qu'il faut être fataliste en pensant que les EDF sont invincibles ou il faut continuer à espérer qu'un jour on mettra fin, n'est-ce pas, à l'activisme de ces rebelles?
Si nous continuons dans la même direction, ça prendra beaucoup de temps. Mine de rien, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Voilà. Et le moment est venu pour qu'on prenne cette histoire au sérieux. Et à ce qui concerne, en dehors de tous ces aspects que j'ai évoqués ici, qu'il faut combler, qu'il faut résoudre, il y a aussi cette initiative qu'on devra prendre avec la population. Voilà. Monsieur le journaliste, il y a le phénomène, par exemple, Ouazalendo. Ça devra être clarifié. Voilà. Je vous donne l'exemple de Japan, de ce qui s'est passé à Japan. La population pensait que c'est l'arrivée de Ouazalendo. Ils venaient d'où? On ne savait pas. Mais c'est lorsqu'ils ont commencé à tuer que la population s'est rendue compte que ce n'était pas Ouazalendo. Ouazalendo, excusez-moi. Ça aussi, ça devrait être clarifié. Et si le gouvernement tient à ces Ouazalendo à l'intérieur, ça doit être organisé. Ça doit être bien organisé. Et ces Ouazalendo-là, au lieu d'être disséminés partout sans une bonne coordination, parce que l'absence de coordination aussi, parmi ces Ouazalendo, pose un problème.
Et si on y prend garde, ces gens peuvent un jour se retrouver à Kinshasa, n'est-ce pas que c'est possible?
Oui, mais dès lors, avec cette politique qu'ils sont en train de mener, vous arrivez dans la ville de Kisangani, il faut voir maintenant le surpeuplement. Ce sont des gens qui fuient là-bas. Ils pensent aujourd'hui qu'il y a la sécurité. Et lorsqu'il faut... Parce que moi, j'ai toujours pensé qu'à tout moment, les Ouazalendo pourraient faire une certaine jonction avec l'M23. Ça, c'est notre crainte. Et là, ça doit préoccuper notre gouvernement. Ça doit nous préoccuper. Et c'est pourquoi nous tirons à chaque fois la sonnette d'alarme. Et peut-être, ça risque de
vous paraître... Vous parlez de Ouazalendo ou des EDF?
Non, je parle des EDF.
Ouais.
Voilà, des EDF.
Il y a possibilité que ces EDF puissent faire jonction de force avec l'M23.
C'est possible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, certains Ouazalendo sont des supplétifs. Oui. Parce que les EDF peuvent aussi nous aider. On a parlé avec d'autres collègues. Il y a de ces Ouazalendo. D'abord, aujourd'hui, Ouazalendo. C'est comme quelqu'un qui venait de me dire aujourd'hui qu'il y a des Ouazalendo à Nyanya. Et Mouzalendo de Nyanya, il fait quoi? Il est là derrière la tracasserie, ainsi de suite. Mais lorsque les ADF...
On a tendance à confondre les ADF au Mouzalendo.
Voilà.
Merci, Kalin Zanzu Kasivita. Vous êtes député national élu de Beni Territoire. Vous êtes vice-président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes également gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu. Comment vous également, vous comprenez cette détérioration de la situation sécuritaire causée par les ADF à Ituri ainsi que dans les grands nord du Nord Kivu?
Bonsoir, je voudrais d'abord m'incliner à la mémoire de toutes les victimes des ADF, que ce soit en Ituri, que ce soit dans la province du Nord Kivu. Il est vrai qu'on peut expliquer la résurgence ou la multiplicité des atrocités des ADF par beaucoup de facteurs. Mon collègue Abdallah vient de faire une synthèse de certains faits. Il faut d'abord souligner aujourd'hui que la République démocratique du Congo devrait déjà comprendre les modes opératoires des ADF, parce qu'il y a plus de 10 ans que nous sommes sur cette guerre. Il faut retenir aussi que les ADF se sont déjà affiliés à une branche islamiste, Daesh, et qui finance aujourd'hui. Et donc, dans le contexte d'aujourd'hui, les ADF ont plus de moyens parce qu'ils reçoivent non seulement les moyens de Daesh. Mon collègue vient de dire qu'ils ont établi des redevances qu'ils perçoivent auprès de la population au niveau du territoire de Mambasa. Aujourd'hui, il faut aussi comprendre qu'il y a des cellules au niveau de la région, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, des cellules terroristes au Burundi, à Tanzanie, qui contribuent, qui financent. Et donc aujourd'hui, les ADF ont plus de moyens qu'avant. La République démocratique du Congo devra comprendre que c'est de plus en plus qu'on laisse le temps aux ADF. Et ces derniers deviennent une menace assez importante contre l'économie et la vie de nos populations, parce que c'est chaque jour qu'on déplore les morts. Il faut souligner aujourd'hui, effectivement, qu'il y a eu des efforts dans le cadre de la mutualisation des FRDC et des Ougandais. Mais l'avantage de ces opérations était effectivement de déloger les ADF dans les grands bastions, et les ADF se sont réadaptés à la symétrie. Ils se sont scindés à plusieurs cellules. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous pouvez les voir dans les territoires de Mambasa, dans les territoires de Lubero, opérer même jusqu'à Otuele. Parce qu'ils ont compris que dans cette partie-là, il y a un vide sécuritaire. Nous devons l'avouer, nous n'avons pas une couverture sécuritaire assez dissuasive dans ces zones-là. Il nous faut des militaires, il faut renforcer les FARDC, et il faut éviter la confusion. On vient de citer la question de ce qui se disent Ouazalendo. Là aussi, il faut bien regarder. Les ADF ont la capacité de les infiltrer. Les ADF ont la capacité aussi de créer ses propres milices qui se reconfondent.
Comme ils ont la capacité aussi d'infiltrer les FARDC, pourquoi pas?
C'est des terroristes, ils ont ces capacités aussi, ils peuvent infiltrer les structures sécuritaires du pays pour avoir des informations. C'est pourquoi ils ont des drones. On a cité certaines parties de la République, ils ont opéré avec des drones. Et la population civile, la population nous renseigne régulièrement de leur capacité opérationnelle. Donc nous devons comprendre aujourd'hui qu'effectivement, il y a un défi que nous avons, la guerre du Rwanda. C'est un désavantage pour les opérations des ADF, parce qu'en fait, les meilleures unités, il faut qu'on les dise comme ça, les meilleures unités aguerries qu'on a vues dans cette zone-là ont été mises à contribution pour arrêter la progression du Rwanda vers Butembo, Beni, mais aussi dans d'autres coins, comme les Sud Kivu, dans les territoires de Fizi. Ça, c'est aussi une réalité. C'est pourquoi nous demandons à ce que la République puisse encore renforcer les capacités opérationnelles d'un FARDC. Dans ma lettre ouverte adressée au chef
de l'État. Justement, on va parler de cette lettre-là. Hein. Vous avez proposé que les chefs d'État puissent renforcer en urgence des dispositifs sécuritaires dans les zones les plus affectées en proposant la formation de la population comme premier rempart contre ces ADF. C'est quoi la particularité de votre proposition?
J'avais proposé deux aspects. J'avais proposé d'abord le renforcement de nos FARDC, de notre système de défense, pour que ces systèmes soient adaptés à la symétrie. Il faut que les FARDC soient à même
de faire des opérations à tout moment, même diurnes, contre les ADF. Il faut que les FARDC soient adaptés à l'asymétrie qui nous impose les ADF. Ça, c'était.
On est jamais arrivé à ce niveau-là?
C'était. Si. Parce que si on était.
C'est un mode opératoire qu'ils utilisent depuis plusieurs années.
Si nous étions à ce niveau-là, mm-hmm. on ne pouvait pas, effectivement, ne pas anticiper. Mm-hmm. Mon collègue vient de vous le dire qu'il a l'impression que nous courons derrière les événements. Nous n'anticipons pas. C'est pourquoi j'avais demandé à ce que, d'abord, notre système de défense doit s'adapter à la symétrie. Ça, c'est le premier élément de ma lettre ouverte. Le deuxième élément, c'était évidemment de renforcer ce que moi j'avais appelé la sécurité de proximité. Parce qu'il faut, l'avouer, aujourd'hui, dans des villages reculés, qui n'ont pas ni chef de localité, ni policier, les ADF font la loi. Mais si, dans ce contexte de renforcer les efforts des FARDC, on organise ce que moi j'avais appelé les locaux d'IFES, on va éviter d'abord l'imbroglio de tout ce qu'il y a comme groupe Ouazalendou, mais aussi on va renforcer l'autorité de l'État au niveau de la base. Comme ça, les FARDC pourront se concentrer sur les principales, comme on l'a dit, ils vont se concentrer sur les objectifs principaux, poursuivre les ADF, ne pas lâcher les opérations, et les villages qui sont en retrait seront sécurisés par ces locaux d'IFES. Cela permettra à ce que les ADF ne puissent plus faire des détours pour venir causer des pertes à vie humaine. Parce qu'en fait, leur terrorisme, c'est d'abord le terrorisme de représailles. Ils viennent tuer les populations civiles non armées pour couper la liaison entre la population et les FARDC. Donc, cela pourrait être évité et ça va renforcer le moral de la collaboration de la population avec les FARDC. Ça va couper les réseaux de collaboration. Parce qu'on a cité dans les reportages que j'ai suivis ici, on a cité des réseaux de collaborateurs. La formation des locaux d'IFES va anéantir ces réseaux de collaborateurs et nous pouvons, je suis convaincu que nous pouvons vraiment mettre à déroute les ADF. Parce qu'en fait, dans la région de Beni, que ce soit en Ituri, les ADF ne s'intègrent pas dans la population. Pour gonfler leur effectif, ils sont obligés de tuer la population et de faire des kidnappings. C'est de cette façon qu'ils recrutent. C'est la raison pour laquelle les services de sécurité, moi je l'ai toujours dit partout, toutes les fois que vous trouverez des noms de l'Ituri, du Nord Kivu dans les rangs des groupes ADF, il faut se poser la question comment ces gens sont arrivés. Nombreux de ces gens ont été soit kidnappés lors des opérations, surtout les jeunes gens, les enfants et nombreux ont été vraiment été victimes des rapes. Mm-hmm. Parce qu'ils organisent aussi des rapes dans des villages. Oui. Il peut arriver qu'ils arrivent dans un village, ils ne tuent personne, ils vous prennent les jeunes gens, les hommes,
pour les hommes de garde,
pour aller les endoctriner. Mm-hmm. C'est de cette façon-là que les ADF opèrent. Si nous formalisons la question des locaux d'IFES, ça va couper la collaboration, parce que personne ne les souhaiterait les avoir dans son village.
Alors, depuis que vous avez déposé cette lettre ouverte, est-ce que vous avez reçu une réponse?
Il faut d'abord avouer que c'est une question de défense nationale. Mm-hmm. C'est une question assez sérieuse pour l'État congolais. Mm-hmm. Mais ça demande aussi qu'on réfléchisse évidemment sur les réformes qu'on peut faire pour y arriver. Mm-hmm. J'ai quelques échos, je ne peux pas maintenant commencer à les balader ici, mais c'est une question de choix politique et de choix sécuritaire. Moi, je crois que l'impératif aujourd'hui est de sécuriser la population par tous les moyens possibles, légaux. Et moi, je souhaiterais effectivement avoir les locaux d'IFES comme un moyen légal pour sécuriser ces espaces perdus, des fois enclavés, et qui expose la vie de nos compatriotes tous les jours.
Merci, Ildefonso Bwakiana Kazi, chercheur à Ebouteli. Vous êtes spécialiste de la question EDF. Quelle lecture vous faites de la détérioration de la situation sécuritaire causée par l'activisme des EDF à Ituri et dans les Grands Nord du Nord Kivu?
Ce que nous devons souligner ici, c'est que cette défense de l'activisme des ETF dans la zone.
Ildefonso, vous n'avez pas. Ildefonso. Vous n'avez pas activé vous n'avez pas activé les modes de main libre?
Non, ça va.
Voilà, allez-y parce qu'on sent un écho. Allez-y.
La vie est captée?
Allez-y.
Ok. Alors, ce que je disais que cette situation de l'activisme de l'ETF que nous enregistrons aujourd'hui, c'est plus dans la continuité de ce que nous avons documenté au mois de mai, où on a vu les ETF qui est la population civile dans la ville de Beni, notamment au quartier de Gabi. Ça s'est suivi des décidats autour de Mokoumo, Diakato, Mwemba. Et après cette phase-là, il y a eu maintenant une nouvelle phase, un nouveau partage du système de l'ETF qui a commencé encore autour de Mbaou, de la localité de Mbaou. On a vu des décidats dans les quartiers périphériques de la ville de Beni, notamment à Saïe et à Matembo. Et après cela, on a vu la commune de Mandine a été touchée à des reprises. Deux jours successifs, notamment le 14 de ce mois et le 15 de ce mois, les EDF ont opéré dans la commune de Mandina, ils ont été suivis dans cette commune. Après cela, il y a eu des incidents autour de Ngoyo, Kaligo, Mounizé, et avec ce que nous avons documenté, notamment en Diapa, la Vela et en Kaya. Alors, en voyant ce mode opératoire, on s'est rendu que c'est peut-être le même mode opératoire qui est en train de se répéter dans la zone, et il n'y a pas des opérations militaires qui peuvent dissuader les EDF à ne pas commettre des incidents contre les civils. Et aujourd'hui, le constat que nous avons, c'est qu'on se rend compte que certainement dans la zone, il y a des opérations militaires qui sont engagées, notamment les opérations Suja. Mais le constat aujourd'hui, c'est que cette opération militaire est centralisée sur le terrain. Lors des incidents du mois de mai, il y a eu le redéploiement des militaires du PDF dans la localité de Diakato, parce que c'était une localité qui avait été touchée. Il y a eu aussi le redéploiement d'ailleurs de la MONUSCO dans cette zone, et ce qui avait donné plus ou moins une lueur d'espoir pour une personne à calmer la population de la zone. Mais malheureusement, avec de ce dispositif militaire, on se rend compte que la population continue à périr sous le joug de ces EDF qui continuent à commettre des incidents dans la zone. Et donc, ici, comme je le disais, l'opération Suja qui...
Il défonce ?
Oui.
On a du mal à vous écouter. Hein. Est-ce qu'il y a possibilité de bouger si vous êtes dans une maison, vous sortez de la maison parce que... vous dites des bonnes choses, des choses intéressantes, mais on a du mal à comprendre ce que vous dites.
Est-ce que vous me captez bien?
Non, ça ne va toujours pas. Bon, allez-y quand même.
Vous me captez?
Allez-y. On essaie que ça va s'améliorer.
Ce que je disais, en fait, c'est qu'il y a eu des déploiements d'une vitesse de PDF dans la zone de Diakato, ainsi que même le déploiement de la MONUSCO dans cette zone, ce qui a donné une lumière d'espoir à la population. Mais malheureusement, à depuis de ces dispositifs militaires dans cette zone, on continue tout de même à enregistrer des massacres de la population civile dans cette zone. Et ici, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu un moment où on voyait par exemple des opérations faciles de la part de l'opération Suja, qui avait visé des positions, des bastions des EDF. Mais ce que nous précisions dans le passé, c'était qu'il n'y avait pas d'opération gratuite, d'opération sur le terrain. Pour mettre hors d'état de nuire les EDF qui massacrent la population dans la zone. Mais maintenant, aujourd'hui, ça fait cette phase, depuis presque deux mois, ce que nous avons remarqué, c'est que ça se raconte qu'il n'y a même plus même ces opérations de ciblage de bastions ou de position des EDF. Et ce qui fait que l'opération de Nathalie, on ne connaît plus qu'est-ce qui se passe vraiment avec ces opérations. Il y a certainement, dans la zone, il y a des militaires SRDC, il y a les militaires UPDF. Il y a également la MONUSCO qui s'est déployée dans la zone. Il y a également les groupes de Wazaleb, les différents groupes de Wazaleb dans la zone. Mais avec tous ces dispositifs d'acteurs armés dans la zone, on fait compte que les opérations des EDF continuent à se perpétuer dans la zone et la population continue à être massacrée dans cette zone ici. Alors, il y a eu quelques mesures prises, mais on fait compte que toutes ces mesures-là se font dans une sorte de tâtonnement. On a dit d'abord au début, on était en train de critiquer le fait qu'on est au Kivu. Les opérations militaires n'étaient pas commandées par le gouvernement militaire. Et aujourd'hui, ces opérations maintenant sont entre les mains du gouverneur militaire, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu un changement sur le terrain par rapport à ces opérations qui sont venues sur. Même si on fait tout de même que, même si le gouverneur aujourd'hui récupère le commandement des opérations sur le terrain, ça ne se fait pas comme une baguette magique, il y a même temps, il utilise les mêmes officiers, les mêmes militaires qui sont sur le terrain. Et donc, on utilise parfois le manque de créativité dans la. Dans les secours des populations civiles qui sont touchées par les incidents ODS. Autre chose que je voulais souligner, c'est que certainement, on a parlé de la difficulté de la coordination des opérations sur le terrain. Il y a plusieurs acteurs, mais tous ces acteurs-là, les acteurs en eux qui sont sur le terrain, on se rend compte qu'il n'y a pas une harmonisation. D'abord, des informations. Il y a des informations qui se passent, les renseignements qui se passent. Mais ça raconte que toutes ces informations-là ne sont pas capitalisées pour permettre à prendre des dispositifs pour mettre hors d'état de nuire les ODS qui massacrent la population dans la zone. Et donc aujourd'hui, on se raconte que le mode d'opération des ODS qui se développe sur le terrain, les militaires qui sont passés contre ces ODS n'arrivent pas à prendre des dispositions, à avoir des approches adaptatives par rapport au mode d'opération politique des ODS sur le terrain.
Voilà.
Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on continue à préciser cet activisme des Indiens qu'il faut. Parce que de la même façon, ils viennent de donner pour le centre de l'Ambassa et ils vont faire cette urbaine chaînée sans être comptés par les militaires qui sont sur le terrain.
Oui, vous qui êtes spécialiste de cette problématique EDF, comment on peut expliquer, après plusieurs années, n'est-ce pas, des luttes contre ces rebelles, hein, c'est vrai que vous avez dit qu'il y a des mesures qui ont été prises, n'est-ce pas, qui ne sont pas efficaces, mais au-delà de tout ça, de tous les faits qui peuvent expliquer la résistance de ces groupes armés, on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi on n'arrive toujours pas à détruire leur système d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne les armes, les munitions et tout ça. Et vous avez parlé du mode opératoire qui est le même, n'est-ce pas, depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années. Mais pourquoi on n'a jamais fait des opérations en s'adaptant, n'est-ce pas, au mode opératoire de ces gens, en montant des stratégies pour contourner, n'est-ce pas, pour combattre ces modes opératoires. Est-ce que là, on n'est pas en train de donner raison à l'honorable Abdallah Penembaka qui a estimé que Kinshasa ne prend pas au sérieux cette menace EDF?
Alors, la première chose que je dois préciser, c'est qu'on n'a jamais eu à définir une bonne approche pour mener les opérations contre les EDF sur le terrain. Ce que nous avons utilisé, nous avions d'abord présenté, nous avions sollicité la coalition FATC du GIEF, lorsqu'il y avait des opérations qui étaient menées dans la zone de Bachou, dans le secteur de Bachou, dans le secteur de Mendo. On a vu réellement les opérations étaient menées. Il y a eu un appui aérien pour démanteler les bastions des GIEF. Et sur le terrain, il y a eu des opérations de la TIFA, ce qui a fait qu'aujourd'hui, la population de cette zone aspire à une calmée de la presse depuis un bon moment. Mais ce qui n'a pas été suivi pour les autres zones, mais dans les autres zones, par exemple, ce qu'on a vu avec les opérations suivantes, il y a eu des ciblages des opérations des EDF, mais ces ciblages des opérations des EDF n'ont pas été suivis par des opérations de la défense. Mais aussi, autre chose, c'est que, comme on l'a dit, il y a aussi un manque de coordination des différentes unités qui sont dans la zone. Si par exemple, on dit des opérations sur genre, les EDF n'étaient que par exemple dans le territoire de Beni et une partie du territoire de Birumu. Et que lorsqu'il y avait des opérations sur la partie Beni, la partie du territoire de Beni et la partie du territoire de Birumu, qu'est-ce que par exemple les autres unités qui étaient dans les zones, par exemple de Mambasa ou de Loupé, faisaient pour comprendre que les EDF ne devaient pas entrer dans les zones. Et qui fait que par exemple, lorsqu'il y avait une certaine question, de la part de l'opération UPDF, si les EDF, dans les zones où ils étaient, notamment à Tessor de Pim et à Tessor de Moumou, les EDF ont trouvé les autres et les espaces pour entrer dans des zones qui n'étaient pas touchées à cette époque-là.
Et comment?
Parce que, par exemple, à un moment donné, le territoire de Nouvelle était devenu presque le plus simple de la justice de l'EDF.
Oui,
après cela, on voit aujourd'hui Mambasa qui est devenu aussi le plus simple
les activistes des ADF. On a même entendu qu'à part les étudiants dans les provinces, notamment la province de Souris et du Nord-Kivu, on a vu aussi le lancement des opérations ADF, notamment dans la province de la Tchou, pour exemple, dans celle de Nord-Kivu. Cela montre clairement qu'il y a certainement des effets que l'on a déjà parlé du vide sécuritaire dans certaines zones, et ça, malheureusement, ça caractéristique sur cette approche où les ADF qui trouvent un espace dans une zone où, par exemple, bien certainement, les autorités, mais les autorités qui ne prennent pas de dispositions pour dissuader les ADF, mais pas en dans des zones qui ne sont pas fonctionnelles.
Merci. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Honorable Abdallah Penembaka, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kalemi dans les Tanganyika.
Éminent Mwanda Hassani Kangolingoli depuis Kalemi dans le Tanganyika. La recrudescence des attaques des ADF en Ituri et dans le Grand Nord du Nord Kivu est profondément préoccupante. Les ADF continuent de semer la terreur. Il est urgent de renforcer la protection des civils et de mettre en œuvre une stratégie durable pour restaurer la paix. J'aimerais pour ce fait savoir pourquoi les ADF continuent-ils à mener des attaques meurtrières malgré les opérations militaires en cours. Quelles mesures urgentes les autorités doivent-elles reprendre pour mieux protéger les populations civiles? Comment améliorer la coopération entre la RDC et le pays voisin pour neutraliser durablement les ADF enfin? Que faut-il faire pour assurer l'assistance et les retours sécurisés des populations déplacées?
Abdallah Benembaka.
Oui, monsieur le journaliste, je vais commencer par la dernière partie de sa préoccupation. J'aurais souhaité que tous ces déplacés-là soient assistés par la République. Ces déplacés étant abandonnés, parfois ils sont l'objet de certaines sollicitations. Et ces sollicitations-là, ça peut être à travers leurs frères qui ont été kidnappés, ainsi de suite. Il faut que la République assiste cette population. Le territoire de Mambasa, depuis que ces atrocités ont commencé, nous étions surpris de voir la ministre d'État aux affaires sociales, elle a circulé, elle était du côté de Diziro. On pensait qu'elle arriverait peut-être jusqu'à Mambasa. Elle est passée à Bounia et Mambasa a été oubliée. Nous avons tiré la sonnette d'alarme et nous avons écrit, aucune réaction. Ces gens-là sont abandonnés. Et pire maintenant, ça s'est couplé avec la maladie à virus Ebola. Mm-hmm. Allez-y comprendre. Donc la population se sent abandonnée. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Nous allons revenir sur ce que nous avons dit. Nous pensons que, après autant d'années, la République devrait former des hommes à même de pouvoir se comporter de la même manière sur le terrain, sur le théâtre des opérations, de la même manière que les ADF, dans le même système. Et ne pas attendre que les ADF commencent l'initiative. Il faut le poursuivre. Il faut le pourchasser. Et là, c'est toute la région qui doit être en mouvement. Ne pas attendre qu'on passe vers chez vous pour être en mouvement.
Justement, c'est la question que vient de poser l'auditeur Emina Mwanda. Comment améliorer la coopération entre la RDC et les pays voisins pour neutraliser durablement les ADF?
Non, je crois.
Il y a déjà cette coopération avec l'Ouganda, mais qui ne produit pas les fruits ou les résultats escomptés?
Oui, je crois qu'il faut amplifier. Continuer. Il faut amplifier, il faut renforcer davantage. Mm-hmm. C'est là où nous avons parlé de la logistique. Mm-hmm. Voilà. Et bien, en dehors de l'Ouganda, il y a d'autres milliers, parce qu'il faudra que même les autres pays voisins soient aussi mis en contribution. Je dirais même que les puissances mondiales soient aussi mises en contribution. Parce qu'aujourd'hui, il semble que les autres sont en train d'observer la République en train de pleurnicher seule, au lieu de pouvoir apporter leur soutien pour que la pacification soit une réalité. Et il a insisté aussi quelque part, éminent, par rapport à la coopération, à la collaboration qui doit exister entre la population et les militaires. Je crois que les relations civilo-militaires doivent être suffisamment renforcées. Mais en dehors de ça, il y a aussi cette coordination et surtout, voir dans quelle mesure positiver peut-être si on pense tel que l'honorable Carly l'a proposé, si on pense que la
population... La sécurité de proximité.
Voilà. Et ce ne sont pas ces oiseaux de là, on ne sait pas comment ils ont été créés, comment ils fonctionnent, ainsi de suite. Ce n'est pas sur eux qu'on peut compter. La République peut prendre maintenant les devants. Ceux-là qui veulent servir la République, on le recrute, on le forme, parce qu'il faut une bonne formation et une bonne coordination. Voilà.
Est-ce que les conditions sont réunies pour mener une telle démarche?
Mais qu'est-ce qu'on attend? Il faut créer les conditions. On doit créer ces conditions-là. Parce que sinon, le pire risque de nous arriver. Le pire est en train d'arriver chaque jour. Mais ça risque d'être encore catastrophique. Moi, je crois, mieux vaut tard que jamais, il est temps qu'on se réveille et qu'on prenne les dispositions appropriées.
Est-ce qu'on peut craindre aussi que ces populations, ces jeunes qui sont formés, n'est-ce pas, pour constituer les premiers remparts contre les EDF, puissent un jour se retourner contre l'État congolais? On a connu ça avec les phénomènes Maïmaï, n'est-ce pas?
Formés, pris en charge par la République, je ne pense pas pour quelle raison ils le feront. C'est très souvent lorsqu'on a été formé, abandonné à un certain moment, non pris en charge, non encadré, voilà le problème.
Merci. Voilà. Merci, honorable Caroline Zandou-Kassevita. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Beni, au Nord Kivu.
Fabrice Sambili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. Nous assistons aujourd'hui aux conséquences d'un problème qui n'a pas été traité avec beaucoup de sérieux qu'il méritait lorsqu'il avait commencé. Depuis plusieurs années, lorsque les EDF semaient déjà la terreur à Beni, on a alerté les autorités en demandant à ce qu'il y ait une stratégie exceptionnelle qui devrait être mise en place pour neutraliser définitivement cette menace avant qu'elle ne s'étende. Malheureusement, ces alertes n'ont pas été suffisamment prises en compte. Aujourd'hui, les constats demeurent alarmants. L'EDF ne frappe plus seulement Beni et Ituri frappe désormais la province du Haut-Uele et celle de la Tchopo. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que cette menace n'a jamais occupé la place qu'elle mérite dans les grandes décisions prioritaires du gouvernement. Nous n'avons pas vu vraiment un débat national si la stratégie est adoptée face à la problématique des EDF, ni une évaluation publique et régulière des opérations militaires menées sur le terrain. Pourtant, chaque attaque coûte des vies humaines et provoque des déplacements massifs des populations. À mon avis, je pense qu'il est temps que les gouvernements considèrent cette question comme une urgence nationale.
Caroline Zanzou-Kassevita.
Je voudrais d'abord partager sa dernière conclusion. La République devra comprendre que le terrorisme, c'est une urgence nationale parmi les priorités qu'il faut vraiment affronter. Au-delà de ça, il faut quand même souligner que les ADF ont la capacité de se réinstaller dans les endroits qui sont laissés par les FARDC. On l'a vu dans les opérations qui étaient menées par le pauvre Bahouma, qui avait détruit beaucoup de bastions contre les ADF. On a eu un petit répit suite à la situation politique, les élections et tout. Les priorités étaient orientées ailleurs. Les ADF se sont réorganisés. Je l'ai toujours dit dans mes...
C'est pourquoi il ne faut pas
dans mes débats de tous les jours, que même si on restait avec 5 à 2, on peut tuer tous leurs chefs. S'il restait que seul, ils auront toujours la capacité de se réorganiser. C'est la raison pour laquelle j'ai...
Parce que les conditions sont là pour qu'ils puissent se réorganiser.
Non, je l'ai bien dit, ils ont déjà des connexions avec des cellules autour de nous. Ils ont une coopération avec Daesh. Et ces cellules leur permettent de se réorganiser. Il faut des kidnappings déjà. Ils ont la capacité de gonfler les troupes à kidnappant les paisibles citoyens. C'est la raison pour laquelle, effectivement, la République démocratique du Congo devra considérer que c'est une guerre longue. Une guerre sans repos. C'est pourquoi j'estime qu'il faut impliquer la population locale. Parce qu'au fait, c'est cette population locale qui est victime. Et le collègue Abdallah l'a bien dit, il y a plus de peur que de mal d'organiser les locaux d'IFES. Parce qu'au fait, avec les locaux d'IFES, les gens vont s'approprier leur sécurité. Mais nous devons aussi dire que ce ne sont pas les locaux d'IFES qui vont être au premier plan. C'est d'abord les FARDC. Les locaux d'IFES ne devront que s'y plier les actions des FARDC. C'est pourquoi je pense qu'il faut mettre l'accent sur la réforme des FARDC, former plus des unités adaptées à la guérilla, à la symétrie, mais aussi investir dans la raison. Vous ne pouvez pas mener une guerre dans une zone totalement enclavée. Même si vous aviez des troupes aguerries, le manque d'infrastructures handicape les opérations militaires. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il est important effectivement de prendre toutes les dimensions de la solution. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut seulement un gouverneur militaire pour s'assurer que la question de l'ADEF va être résolue. C'est des problèmes structurels de la République, c'est des défis auxquels il faut trouver des solutions appropriées. Il faut investir dans la logistique. Aujourd'hui, avec les renseignements militaires, il faut aussi aller dans la technologie. Si les ADEF peuvent surveiller nos positions militaires pour éviter les confrontations, parce qu'au fait, dans leur mode opératoire, il faut tout pour éviter la confrontation avec l'armée régulière. Ils n'ont pas besoin de perdre leur personnel. Et pour les empêcher d'être proactifs, il faut aussi avoir un renseignement assez poussé, non seulement les hommes, mais aussi la technologie.
Et tout cela n'est possible que si Kinshasa prend la mesure de la chose, n'est-ce pas?
Le pays n'est pas seulement Kinshasa, je parle de la République.
Quand je parle de Kinshasa, je vois le gouvernement central.
Évidemment, la République devra comprendre que nous pouvons facilement terminer la guerre de l'agression rwandaise, parce que c'est une guerre conventionnelle. Mm-hmm. On peut la terminer soit par la diplomatie, soit par la politique. Et je suis de ceux-là, effectivement, qui pensent qu'il faut terminer le poids de la guerre du Rwanda contre les opérations des ADEF. Parce qu'au fait, les gens ne voient que Beni, ne voient que Mambasa, ne voient que peut-être les territoires voisins de Mambasa. Mais si les ADEF investissent la Tchopon, l'Équateur sera aussi dans le collimateur des ADEF, parce qu'ils vont, continuer à aller inquiéter nos populations, à les tuer. Leur rôle, c'est de créer de la terreur, c'est de tuer davantage les populations civiles. Je ne pense pas qu'ils ont intérêt à être président de la République, mais ils peuvent déstructurer complètement l'économie congolaise, ils peuvent endeuiller régulièrement la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous devons investir et dans la réforme de l'armée et dans la coopération régionale. Nous ne pouvons pas arriver à bout des ADEF si nous n'avons pas une coopération régionale militaire assez poussée avec les pays dans lesquels ces terroristes recrutent. On a arrêté beaucoup de Kenyans sur les champs à Beni et à Nituri. On a arrêté beaucoup de Tanzaniens, beaucoup de Mozambiquais. Il nous faut une coopération militaire.
Vous parlez des arrestations, mais il n'y a jamais eu de procès contre ces deals. Pourquoi?
Non, mais moi je ne dirais pas qu'il n'y a jamais eu de procès. Il faut peut-être dire qu'il n'y a jamais eu de procès régulier contre les ADEF. Mais il y a eu quand même des procès. Mais la problématique, moi je ne pense pas que la problématique soit les procès ou bien l'objectif principal. L'objectif principal, c'est d'arrêter les actions terroristes des ADEF sur le sol congolais.
Merci.
Évidemment, pour y arriver, il faut passer par tous les mécanismes de l'État, procès, renseignement, détention. C'est des mécanismes pour permettre à endiguer ce terrorisme.
Merci, Ildefonso Boakyanakazi. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Bonsoir la radio de la paix, c'est Bakir Mwanara depuis Kinshasa Gombe. Pendant que des Congolais sont assassinés, enlevés et contraints de fuir leur village, les priorités nationales semblent se déplacer vers des débats institutionnels et politiques. C'est une inversion des priorités que rien ne peut justifier. La première responsabilité d'un État est de protéger ses citoyens. Lorsque des populations vivent sous la menace permanente des massacres, des enlèvements et des pillages, l'impératif est que toutes les institutions de la République concentrent leurs efforts sur le rétablissement de la paix. Le sang des innocents ne peut devenir une statistique. Chaque attaque des ADF est une blessure infligée à la nation tout entière. Les peuples congolais attendent des résultats concrets, pas des discours.
Il défend ce Boakyanakazi.
Oui, je pense que dans la lecture de ce qui se passe dans notre thème politique nationale, on se rend compte certainement que les questions de sécurité de la population est reléguée au second plan, tel que le disait notre citoyen de Kinshasa. Ce qui fait qu'on se rend compte que cette question n'est pas priorisée, n'est pas vraiment parmi les prioritaires du gouvernement au niveau central. Et comme on le disait, comme c'est un phénomène qui ne menace pas la stabilité des institutions, cela est relégué au second plan. Mais aussi, s'il est aussi important de revenir sur la responsabilité de chaque institution, parce qu'il ne serait pas important de continuer à s'utiliser le fait qu'il y a une continuité de massacre, mais chacun doit s'interpeller. Nous sommes dans ce débat avec les députés. Mais qu'est-ce que les députés aussi font réellement pour intervenir les exécutifs, pour prendre des dispositifs, des dispositions inafférentes pour que cette question soit terminée. Et ça compte que malheureusement aussi, ceux qui sont des représentants de la population ne veulent pas aussi privilégier cette question de la sécurité pour que la population puisse aspirer à la paix dans la zone. On se rend compte que, par exemple, dans le débat au niveau national, il y a une émission passée, où on disait, par exemple, que pourquoi on est en train de réunir sur les questions de la Constitution, et pourtant, la question principale aujourd'hui serait d'abord de rétablir la sécurité, c'est ce que nous avons dit, la République, et maintenant, continuer à passer à d'autres thématiques sur la question de l'envie nationale.
Merci.
Et donc, comme il a dit, la question des EDF n'a jamais été vraiment parmi les priorités. Et ça, c'est vraiment une interpellation que nous faisons à toutes les institutions, notamment aussi l'Assemblée nationale, pour revenir sur cette question et interpeller les ministres, par exemple, de la Défense, pour revenir sur cette question et prendre des dispositions de la forme.
Ile-de-France, Bokana Kazi, nous sommes à la fin de l'émission. Hein, votre mot de la fin. Ile-de-France? Ile-de-France est toujours là? Voilà, honorable Abdallah Penemaka, nous sommes à la fin de l'émission. C'est quoi votre conclusion? Vous avez suivi une défense hein, qui évoque votre responsabilité, vous, en tant qu'élu, député national, qui avait les devoirs et l'obligation, n'est-ce pas, de contrôler le gouvernement. Et qu'est-ce qui est fait par vous pour que la situation puisse changer sur le terrain?
Beaucoup de choses. Il suffit, je veux recommander à M. Ile-de-France de suivre ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il comprendra.
Mais apparemment, ça n'a pas d'impact sur... Sur la situation, parce que rien ne change en dépit de tout ce que vous faites, hein, les actions, les interpellations, mais ça ne change rien sur le terrain. Et donc, il se pose la question.
Ça ne change rien complètement, c'est trop dit. Peut-être il y a de petits changements, des petits des avancées qu'on saura observer sur terrain, parce que d'ici là, nous serons sur terrain pendant les vacances.
Voilà. C'est quoi votre mot de la fin?
Je voulais dire ceci, que la République peut vaincre les ADF. La République doit vaincre les ADF. Il suffit de s'y mettre, hein, de mettre de moyens pour que cela soit une réalité. La population a besoin, cette population qui se sent abandonnée, elle a besoin de l'assistance de la République, de la solidarité nationale. Voilà.
Kalinza Nkasivita, votre conclusion?
Qu'est-ce que les députés font? D'abord, il faut connaître les responsabilités des députés. Moi, je ne parle pas au nom de ma commission, mais je peux vous dire que même pendant cette session extraordinaire, nous avons voté la loi de programmation militaire parce que nous souhaiterions que notre armée soit la plus aguerrie, la plus anticipative. Mais il ne faut pas amener à diviser la population dans cette histoire des ADF. Les députés n'ont qu'un rôle interpellateur et nous nous limitons évidemment à donner les meilleures informations à l'exécutif et nous suivons ce que l'exécutif fait et nous les poussons à bien agir. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans votre sidion, c'est la raison pour laquelle nous les interpellons dans les différentes commissions.
Lorsque les députés constatent que son action n'a pas changé la situation, pourquoi il n'est pas allé au-delà
à des questions,
en passant par des interpellations,
à des
par
défis, exemple. À des défis structurels, on ne peut pas mener des réponses verbaux. Verbal plutôt. Il faut des actions concrètes, il faut investir dans la structure de défense, il faut investir dans les renseignements, il faut investir dans beaucoup de choses. J'ai dédié des infrastructures pour que nous puissions arriver à bout des défis que nous avons.
Est-ce que vous pensez que vous, députés nationaux, vous êtes entendus par le gouvernement national?
Nous faisons ce que nous pouvons et nous sommes attendus dans la limite de nos actions parlementaires.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Honorable Abdallah Penembaka, honorable Kalin Zanzu Kasivika et Monsieur Ile-de-France Bwakena Kazi. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Donna Madimba et Benjamin Modumbi qui l'ont réalisé, à Sylvain Baogwere et Alain Ngoy qui étaient à la technique. Chembe Eloku a assuré le live de cette émission, à la présentation Guimaté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.